chez DLD, dans nos trois valeurs, innovation, implication, solidarité. Les trois sont évidemment très importantes, mais je pense qu'au sein de l'équipe de dev, la solidarité, c'est vraiment le truc le plus important, l'entraide. Oui, on recrute beaucoup, on a pour ambition de passer de 30 à 80, 90 d'ici à la fin de l'année. Et aujourd'hui, l'équipe produit slash tech représente la moitié des effectifs de Data Legal Drive. Ça veut dire qu'on va recruter cette année entre 20 et 30 développeurs. Donc évidemment, c'est très ambitieux, c'est énorme et forcément l'organisation, elle va bouger.
Vous venez d'écouter Fabrice Delaporte, CTO chez Data Legal Drive, une legal tech. C'est un terme trendy pour dire une startup qui bosse dans l'industrie du juridique, qui a pour vocation d'aider les entreprises à gérer les données personnelles qu'elles produisent. Salut à toi, cher confrère dev. Je m'appelle Rayed, je suis le fondateur de Practical Programming. Dans cet épisode, j'interview Fabrice au sujet de Data Legal Drive. Que tu sois simplement curieux ou que tu envisages de rejoindre leur rang, cet épisode a pour but de te fournir un max d'infos sur Data Legal Drive afin que tu puisses savoir si c'est une bonne opportunité pour toi. Bonjour Fabrice, est-ce que tu peux nous rappeler la mission de Data Legal Drive et quelles sont les conséquences qu'elle a sur le produit ?
Bonjour Rayed, chez Data Legal Drive, on produit des outils qui permettent aux entreprises de piloter leur conformité. Aujourd'hui, on a un angle, c'est le RGPD qui est entré en vigueur en 2016 et en application en 2018. Il y a une différence importante. En vigueur, c'est le moment où tout le monde a pris connaissance du sujet et le moment où tout le monde aurait dû monter à bord. Et 2018, c'est le moment où le couperet peut commencer à tomber. C'était la ligne d'arrivée, c'était pas la ligne de départ. Tout le monde a compris que c'était la ligne de départ. C'est un côté assez rigolo. Ça fait que tout le monde s'est un petit peu précipité, en fait, sur le sujet, a commencé à monter des fichiers Excel. Et en fait, assez rapidement, pour Sylvain Staub, notre fondateur, il est apparu qu'il n'y avait pas d'outils, en fait, sur le marché. Donc, on est venu, en fait, aider les entreprises à remplir leurs obligations au titre du RGPD. C'est comme ça qu'on a démarré. Et ces obligations, elles sont multiples. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail ici, mais l'idée, c'est de faire le constat que le RGPD, c'est en fait quelque chose de transversal à l'ensemble de l'entreprise. Ce n'est pas juste quelque chose qui appartient à la direction juridique ou à la direction de la conformité. Tout simplement parce qu'un traitement de données personnelles, en fait, il peut avoir lieu dans plein de départements, au marketing, au RH. D'ailleurs, souvent, ça arrive dans ces départements-là et pas au juridique. Au niveau des ventes, la compta, enfin voilà, il y a vraiment plein d'endroits. Et donc, en fait, il y a besoin de quelque chose de beaucoup plus collaboratif, digitalisé, centralisé, pérenne, automatisé. Tout un tas de choses que, évidemment, Excel ne fait pas et qui rendent nécessaire un produit. Et donc, on s'est lancé sur un produit en mode SaaS pour la simplicité, pour la modernité des technos, afin de répondre donc à ce besoin du marché qui est apparu, pas comme par enchantement, mais qui est apparu, qui est devenu très fort dès le mois de mai 2018.
D'accord, j'imagine que ce type de problématique va toucher principalement des boîtes de taille moyenne à grande boîte.
Non, c'est un des trucs assez marquants dans le RGPD. Et c'est ce qui d'ailleurs, peut-être on y reviendra, mais sous-tend une partie de notre stratégie commerciale. Le RGPD, ça concerne quasiment toutes les entreprises. Dès qu'une entreprise a des salariés, elle a une gestion de la paye, donc elle manipule nom, prénom, RIB, numéro de sécu, tout ça, c'est des traitements de données personnelles qui doivent être normalement, ne serait-ce que documentés dans un registre. Un registre, c'est l'endroit où on dit quel traitement on fait, pourquoi on les fait, combien de temps on conserve les données. Qu'est-ce qui nous autorise légalement à faire ce traitement, comment on sécurise les données. Voilà, ça, c'est le registre des données personnelles. C'est l'obligation du RGPD, c'est l'article 30, pour être plus précis. Et toutes les entreprises sont concernées. Il n'y a pas de notion de taille.
D'accord.
C'est pas comme les lois anticorruption, Sapin 2, où là, il y a des seuils de déclenchement, un certain montant de chiffre d'affaires ou une certaine quantité d'employés dans l'entreprise. Là, c'est des effectifs. Là, c'est tout le monde.
D'accord. Tu me disais, du coup, Data Legal Drive, c'est un SaaS. C'est né comme ça dès le premier jour. Quelles sont les problématiques du produit ? Quelles sont les fonctionnalités clés du produit qui permettent d'accomplir cette mission ?
Alors, dans les fonctionnalités clés, on a ce que je viens de mentionner, le registre du traitement de données personnelles pour l'article 30. Il y a deux volets hein, sur ce registre. Il y a la partie responsable de traitement, c'est-à-dire ce que moi, je décide de faire comme traitement de données personnelles. Et il y a ce que je fais pour le compte de mes clients lorsque je suis sous-traitant. Donc, un cas simple, moi, je suis, nous, Data Legal Drive, on est sous-traitant pour nos clients, puisque nos clients ont des comptes utilisateurs dans notre plateforme. Donc, nos clients sont responsables de traitement vis-à-vis de leurs utilisateurs. Donc, on est souvent responsable de traitement vis-à-vis de ses employés. Là où, quand on est sous-traitant, évidemment, on est plutôt en receveur d'ordre. Et donc, il y a cette partie registre qui est évidemment, s'il y avait la fonctionnalité numéro 1 à citer, ce serait celle-là. Ensuite, dans les obligations du RGPD, il y en a deux autres qui sont très importantes. C'est la déclaration des failles, des fuites de données, lorsque ces données sont à caractère personnel. Évidemment, on ne fait pas de cybersécurité que sur des données personnelles. Il y a l'ensemble des données de l'entreprise qui doivent être sécurisées, mais le RGPD s'attache à ce que lorsqu'il y a une fuite de données qui peut potentiellement nuire aux personnes parce qu'on se retrouve avec des numéros de carte de crédit qui ont fuité sur Internet ou de données de ce genre, il y ait des procédures et des garde-fous qui sont mis en place et donc ça doit être déclaré dans les 72 heures à la CNIL. Donc on a un module sur la gestion des violations de données personnelles. C'est le module qui permet aux entreprises à la fois de tenir ce registre. Il n'y en a pas beaucoup, heureusement, pour les entreprises, ils n'en déclarent pas tous les jours. Néanmoins, lorsque c'est à déclarer, dans les 72 heures, il faut le mentionner à la CNIL. Et puis, nous, on va guider en fait nos clients pour savoir s'ils doivent notamment informer les personnes concernées. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de sensibilité des informations qui fuitent, ben, la conduite à tenir n'est pas la même. Ça, c'est un deuxième exemple. Troisième exemple, c'est également la gestion des demandes d'exercice de droit. Donc ça, c'est quelque chose dont tout le monde est devenu assez familier maintenant sur des formulaires de sites web, B2C ou autres. On trouve soit des adresses de contact, RGPD ou DPO, @ quelque chose, ou bien des formulaires qui permettent aux clients ou aux salariés d'exercer leurs droits et par exemple faire des demandes de droit d'accès. Qu'est-ce que vous savez sur moi ? Ou d'opposition, arrêter de m'envoyer des mailings, des prospectus, ce genre de choses. Et ça, c'est pareil, si quelqu'un vient se plaindre à la CNIL ou il y a une dénonciation, ça peut arriver, et que la CNIL vient contrôler, on est censé être capable de fournir la preuve que oui, on reçoit bien ces données, on les traite sous 30 jours, ça c'est la contrainte du règlement, et donc on a un module avec du workflow qui permet de suivre les différentes étapes, d'interagir avec le demandeur et de lui fournir une réponse. Là, on est sur des éléments qui sont très verticaux, très fonctionnels du RGPD. Il y a une autre notion dans le RGPD, c'est ce qu'on appelle l'accountability. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, malheureusement. C'est la notion de responsabilité, mais le terme de responsabilité, il matche pas bien. En fait, l'accountability, c'est le fait d'aller au-delà, d'être plus blanc que blanc, si je puis dire. On est conforme vis-à-vis de l'article 30 parce qu'on a déclaré ces données, mais on va au-delà dans la documentation de la conformité. On vient rajouter la politique, la PSSI, la politique de sécurité des systèmes d'information, les mentions légales sur le cookie, tout document, tout ce qui permet, tout ce qui est de nature à étayer, à en dire plus sur tout ce qu'on fait en plus de la conformité stricte au RGPD. Donc notre plateforme, elle vient aider les clients à documenter et à pérenniser dans le temps ces informations, parce que évidemment, il ne suffit pas de saisir une fois. Ça, c'est le fichier Excel. Il faut maintenir dans le temps un traitement de données, il évolue. Il apparaît en prod, il disparaît de la prod. Il faut être capable de revenir dans le temps pour comprendre pourquoi on a fait ça à l'époque, d'envisager l'avenir, de voir à quelle date en fait ce traitement-là potentiellement va être activé. Donc on a aussi un module important qui s'appelle le Privacy by Design. C'est tout ce qui permet, en mode projet, avant que les choses se passent, d'interagir avec le DPO, de remettre le DPO, le Data Protection Officer, j'en ai pas parlé, mais c'est une notion centrale. Je laisse les auditeurs
googler. C'est un rôle dans l'entreprise. Ouais, voilà. Vous pourrez chercher ça sur Google.
Exactement. C'est un rôle très important dans l'entreprise. Toutes les entreprises n'ont pas obligation d'en nommer un. Voilà. Et donc, ça remet le DPO au cœur de l'entreprise et au cœur des process de l'entreprise en l'impliquant dans les projets. Et Privacy by Design, ça veut dire ce que ça dit. C'est prendre en compte les aspects de protection des données personnelles dès les phases de design des projets. Donc, on ne lance pas dans un truc et puis on le met en prod et on se rend compte que, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour traiter la protection des données ? Poser des mesures de sécurité, discuter des durées de conservation une fois que c'est là, c'est toujours plus difficile que d'en parler tout de suite. Ça fait partie des sujets qui est beaucoup plus facile de traiter en amont. Et en plus, ça acculture l'ensemble de l'entreprise. Donc, ce module, il permet d'échanger. Il permet à ce que les chefs de projet ou les décideurs, les donneurs d'ordre côté métier, direction marketing, par exemple, on va lancer une nouvelle campagne, nouveau formulaire, on va collecter un nouveau type de données pour telle et telle raison. Voilà combien on va aller en chercher. On pose des questions qui sont plutôt orientées métier. Et ensuite, le DPO peut aller, interagir avec le sous-missionnaire du projet, lui rendre un avis, commenter, et pour faire en sorte que le projet sorte dans le meilleur état possible sur le plan de la protection des données. Un petit peu en aval de ça, on a aussi ce qu'on appelle le PIA, Alors PIA, on ne devrait pas dire PIA parce qu'en fait c'est un acronyme anglais, c'est plutôt PIA ou DPIA ou AIPD en français, analyse d'impact sur la protection des données. C'est en fait, une fois qu'on a quelque chose en prod, sur certains, selon certains critères, la CNIL rend obligatoire, pour de bonnes raisons, c'est attention, vous êtes en train de faire quelque chose là, vous devez aller plus loin que dans le simple fait d'avoir déclaré et conservé les données et correctement sécurisé les données. C'est en fait une analyse de risque qui est menée sur le traitement, qui permet en fait de cartographier les risques, de déterminer de potentiels plans d'action de remédiation pour réduire les risques. Les risques qui sont analysés sous trois angles. Hein, alors, ça dépend des méthodologies. Il y en a plusieurs, mais en tout cas, ce que préconise la CNIL, c'est on a notamment sur la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité, ces trois axes d'analyse. Et donc, en fait, on détermine des plans d'action avec des mesures de remédiation qui permettent de compresser le risque, d'obtenir un risque résiduel et de se dire, OK, ce risque est acceptable. Et donc, on part comme ça. Mais voilà, ça permet d'avoir d'aller un petit peu au-delà. Donc, on a nous, dans notre application, on sert toutes ces fonctionnalités-là pour nos clients. Et pour terminer, très important aussi chez Data Legal Drive, c'est notre partenariat avec le groupe Lefebvre Dalloz, les petits codes rouges, là, les gens sont assez familiers de ça, un des leaders de l'édition juridique, qui nous fournit du contenu. Et ça, c'est quelque chose d'assez clé chez nous, c'est l'expertise métier de la plateforme. À l'origine de la société, notre fondateur, Sylvain Staub, est avocat, spécialiste de la protection, spécialiste de la data plus globalement, fondateur de son propre cabinet et maintenant associé chez DS Avocat. C'est cette expertise et ce partenariat avec Lefebvre Dalloz, c'est du contenu à forte valeur ajoutée pour nos clients. C'est un accès au code de la protection des données personnelles Dalloz avec la jurisprudence commentée, etc. Voilà, c'est un vrai fonds juridique pour nos clients. Et donc voilà, c'est très important et très apprécié.
Accessible direct depuis la plateforme.
Depuis la plateforme, voilà. Il faut être abonné, bien sûr.
Ouais. De ce que je comprends, toutes les problématiques qu'une entreprise va subir pour être conforme à l'RGPD, c'est beaucoup de problématiques dont l'entreprise n'est probablement pas familière, d'où l'intérêt de sous-traiter ça via un SaaS.
C'est entre deux, je dirais. C'est-à-dire qu'en fait, mai 2018, ça fait bientôt 3 ans. Et les entreprises ont maintenant bien pris conscience de l'importance du RGPD. Elles ont bien pris conscience du côté vertueux de la chose, c'est-à-dire qu'initialement c'était plutôt vu comme une contrainte. Ah zut, encore un texte réglementaire, comment est-ce qu'on va faire, on n'y comprend rien. Ça c'était vrai il y a 3 ans, c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Aujourd'hui les entreprises ont plus en tête le côté vertueux de la chose et on n'est pas dans l'écologie là, mais on est dans l'éthique de la donnée et être conforme et avoir tout ça bien à jour et bien tenu, c'est plutôt une valeur maintenant pour l'entreprise.
Ouais, c'est un argument, limite un argument marketing.
Exactement, exactement.
Des entreprises.
Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, depuis 3 ans, les entreprises se sont équipées. Enfin, ont pris connaissance du sujet, se le sont appropriées. Et donc, elles ne le découvrent plus vraiment. Ce qui est vrai, c'est que c'est encore, par contre, un marché d'équipement. Avec encore beaucoup de choses à faire et à conquérir.
De ce que j'ai pu voir, Data Legal Drive a été créé en juin 2018. C'était un SaaS dès le début. Comment était conçu le MVP ou la V1 ?
Alors, c'est une bonne question. N'étant pas à ce moment-là, moi, dans l'effectif, je vais te retranscrire de ce que j'en ai compris et j'ai vu quelques vieilles démos d'ailleurs. En fait, l'histoire de Data Legal Drive, elle est liée à la genèse avec une entreprise qui s'appelle Pocket Result. Sylvain Staub a fondé la société avec Maëlie Staub, sa femme, qui elle avait fondé Pocket Result et qui était une boîte qui faisait du soft sur Boulogne-sur-Mer. On n'en a pas encore parlé, mais on a la partie Boulogne-sur-Mer. Et donc, ils avaient une plateforme qui ne faisait pas du tout ce qu'était le cœur de métier de Data Legal Drive, donc la conformité RGPD. Mais en revanche, qui avait une forme de souplesse, de paramétrage, c'était un petit peu du progiciel. Et donc, le MVP, je pense qu'il ne faut pas appeler ça MVP, c'était plutôt le premier proto. Ça a été de détourner cette plateforme en la reconfigurant pour lui permettre de signer les premiers clients et de faire la preuve que oui, les clients avaient envie de prendre un outil. Très rapidement, l'exercice a montré ses limites. Il a fallu se lancer dans un vrai développement. Et donc, c'est à ce moment-là que les choix initiaux des technos se sont opérés. Alors, c'est pas moi qui ai choisi les technos, mais si j'avais dû les choisir, j'aurais peut-être abouti sur des choses très similaires, voire les mêmes, parce que c'était des technos à la fois des stacks modernes. L'idée de la modernité, c'est le potentiel de recrutement qu'il y a derrière, c'est de trouver les choses qui attirent les gens, des langages haut niveau, avec une bonne puissance d'expression, des frameworks bien maintenus qui permettent de faire des choses et qui sont puissants. Et donc, c'est comme ça qu'on est parti sur les stacks qu'on utilise aujourd'hui, et notamment la partie MERN, forcément.
Donc, justement, toi, tu as rejoint l'aventure à peu près 6 mois plus tard, si je me souviens bien.
Le 11 février 2019.
Et ben, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant.
Et ben, ça fait plus de 2 ans, 2 ans et 2 mois,
voilà.
À 3 jours près. Un des recrutements le plus rapide de l'histoire. Pour la petite histoire, l'anecdote, j'ai été contacté un lundi. La semaine avant le 11, donc c'était lundi 4, c'est facile, je me souviens, mon arrivée c'était le 11 février. Donc lundi 4, je me fais contacter sur LinkedIn. Mardi 5, je vais prendre un café avec le recruteur. Mercredi, je rencontre les 3 membres qui constituent l'équipe dirigeante à ce moment-là, Sylvain, Maëlys et Emmanuel, notre directeur commercial. Le jeudi, on va dîner ensemble, histoire d'être sûr qu'on s'entend bien. Vendredi, proposition, j'accepte, lundi, au bureau.
Magnifique, magnifique. J'imagine que t'aimerais recruter tes développeurs aussi rapidement.
Alors, c'est vrai que j'étais dans une situation qui m'a permis de bouger vite. Mais oui, si je pouvais recruter tout le monde. Moi, j'ai eu 2 angles d'attaque dès mon arrivée chez DLD. Assez rapide, c'est... on va dire 3, il y en a plein en fait. Mais le premier sujet, j'ai souhaité... découvrir, rencontrer l'équipe, comprendre qui faisait quoi, quelles étaient les spécificités un petit peu de chacun. Chaque développeur a un petit peu son histoire, ses appétences. Donc c'était important pour moi de comprendre ça. Donc très rapidement, je suis allé rencontrer l'équipe à Boulogne pour me faire mon idée. Mais tout de suite, ce que j'ai vu, c'est qu'il manquait une partie à la qualité logicielle. Donc mon premier recrutement, quasiment, ça a été quelqu'un qui ouais. Un QA pour venir blinder une fois qu'on a développé. C'était assez peu structuré, hein, comme beaucoup de startups qui se lancent et avec des équipes jeunes et dynamiques et pleines de bonne volonté, mais avec un cadrage un peu peut-être trop souple. Donc la partie qualité est évidemment essentielle. On avait déjà quand même un portefeuille de clients qui est évidemment pas celui qu'on a aujourd'hui, mais il y avait quand même des gens, des utilisateurs, et on pouvait juste pas se permettre évidemment de
tout stopper, de
des régressions sur des fonctionnalités majeures à chaque fois qu'on livrait. Donc ça a été mon premier focus, le test. Mon second focus, ça a été d'auditer la partie un peu sécurité pour aller m'assurer que c'était bien blindé là où il fallait que ce soit blindé et que là où ça l'était pas, on se concentre sur le blindage nécessaire parce que la sécurité... on a tendance à le considérer comme une commodité, ça marche, on n'en parle jamais souvent dans les produits, les startups, on parle des produits, des fonctionnalités, c'est super, c'est génial, mais très bien, mais en fait, il y a un côté plateforme, il faut que ça tourne, il faut que ce soit monitoré, il faut que ce soit, et la sécurité, c'est une dimension
ouais, de ça. Et puis vous êtes vous-même intermédiaire de données, donc si jamais vous avez une fuite de votre côté de la part des données clients, ça peut devenir critique.
Alors, nous, on manipule pas les données clientes directement. Ça, c'est peut-être une précision qu'il est important d'amener. Okay. On ne se connecte pas au système d'information du client, enfin, en tout cas, pas à ses bases de données. On ne traite que les données propres à la conformité. Donc, lorsqu'on dit on manipule nom, prénom dans le registre pour faire des campagnes de mail dans la direction marketing et qu'on conserve ces informations-là 2 ans et qu'on a juste le mail et le téléphone et que voilà, la donnée elle-même reste chez le client.
D'accord. À aucun moment, vous ne stockez un prénom ou un mail.
Si ce n'est les utilisateurs de nos clients qui utilisent notre application.
D'accord.
Mais non, nous, on ne stocke pas d'informations. Donc, à ce titre, on n'est pas techniquement exposé à faire fuir les données de nos clients, les données métiers de nos clients, les bases de CRM, etc. On n'accède pas à tout ça. En tout cas, pas aujourd'hui. Et en fait, ce n'est pas notre cœur de métier. Mais cela dit, bon, on a quand même des données de nos clients qui peuvent être potentiellement sensibles. Par exemple, si on regarde les données nécessaires pour constituer un registre, il y a des informations, notamment, je mentionnais tout à l'heure, les mesures de sécurité qu'on doit donner à l'autorité de contrôle, donc en France, c'est la CNIL, qu'on doit donner pour dire voilà comment j'ai protégé mes serveurs, mes systèmes ou mes process. Hein. Les mesures de sécurité, ce n'est pas que des mesures techniques. Il y a 3 axes. Hein. Il y a les mesures techniques, les mesures organisationnelles et les mesures juridiques. Il faut se protéger dans les contrats, il faut se protéger par du process, il faut se protéger par du chiffrement, par exemple. Il y a certains clients qui ont des problématiques de sécurité très importantes dans leur process métier et qui vont expliquer comment ils ont sécurisé leurs données dans notre plateforme. Ces informations-là, elles sont sensibles.
D'accord.
C'est pas des données personnelles, mais si demain, le catalogue des mesures de sécurité d'un de nos clients est exposé, évidemment, on a un problème, parce que non seulement c'est un préjudice en termes d'image pour nous, mais surtout notre client Potentiellement, il faut qu'il aille changer tout un tas de choses chez lui parce qu'en fait, ces données ont fuité. Donc, évidemment, c'est extrêmement important pour nous de sécuriser correctement ces données.
D'accord. Et tu disais que tu avais un troisième volet
Oui, le troisième volet, c'était un aspect méthodologique. Okay. En fait, quand je suis arrivé chez Data Legal Drive, on faisait du Scrum sans vraiment faire du Scrum. C'est-à-dire qu'en fait, les tickets étaient un peu sous-spécifiés. Le cadencement était pas bien géré. À quel moment on décide de s'arrêter? C'est quoi le contenu d'une release? Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments qu'il a fallu reposer, pas dans l'idée de dire c'est comme ça qu'il faut faire, mais en tout cas dans le modèle actuel, voilà les problèmes qu'on est susceptible d'avoir. Moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique sur tous ces sujets. Je considère qu'on peut pas vraiment avoir la science infuse, que toutes les entreprises sont différentes, toutes les organisations sont différentes. Moi, c'était la première fois que je manageais une équipe remote, 100% remote, puisque l'équipe technique que j'ai prise en charge à ce moment-là est basée d'ailleurs toujours à Boulogne-sur-Mer. Et moi, je suis basé à Paris, dans notre bureau à la Défense. Et donc, me dire ce que j'ai connu avant qui a marché, ça va marcher là, j'en sais rien. Donc, en revanche, je vois ce qui peut ne pas marcher dans ce qu'on est en train de faire là. Voilà comment on va faire maintenant. Et puis ensuite, on regarde, on en parle, on fait des rétros et puis on essaye de s'améliorer. Voilà, c'est assez classique finalement à entendre. Mais c'est vraiment une culture de l'amélioration continue que j'ai infusée, tout le monde était très réceptif à ça bien entendu, mais que j'ai impulsé beaucoup plus fort en arrivant, en disant attention, je pense qu'on n'est pas efficace dans notre manière de
faire. D'accord, est-ce que tu peux donner quelques exemples d'améliorations qui ont été faites sur les 6 derniers mois en termes de process d'organisation, des choses que tu as observées, que tu as voulu implémenter ou alors que vous avez simplement modifié par observation?
Alors sur les 6 derniers mois, moi j'ai un peu pris de la distance vis-à-vis de cette partie puisque j'ai recruté quelqu'un de super balèze en méthodologie, un product manager vraiment très très fort qui avait été coach agile dans son passé, mais qui partage en fait les mêmes valeurs que moi sur l'agilité et qui est aussi pragmatique, et de se dire on teste, on regarde, si ça marche pas, on change, on essaie autre chose, et puis il faut être alerte sur quand est-ce qu'on se dit, attends, il y a un problème, ça fait X semaines qu'on le rencontre, et peut-être on a besoin de réfléchir à comment supprimer, ou en tout cas améliorer la situation. Donc concrètement, le recrutement d'une personne encore plus calée que moi et qui est capable d'être beaucoup plus dans le quotidien, ça c'est un truc que moi je vis, c'est être l'immersion dans le quotidien, c'est un peu difficile, parfois parce que j'ai tout un tas d'autres sujets dans la startup au niveau du comité de direction un peu stratégique, et donc il y a une complexité quand même à gérer tout ça. Mais sinon, ce qu'on a fait récemment dans la partie donc évidemment je suis ça de très près malgré tout, hein, donc sur la partie méthodologie, ce qu'on a fait récemment, c'est on a pour dire plus de lisibilité sur nos chiffrages et notre capacité d'exécution, notamment parce que il y a deux éléments chez nous, c'est les recrutements, ça va vite en ce moment, et donc notre bande passante évolue tout le temps, et on a une certaine forme de dette technique, puisque dans la jeunesse du produit, avec l'équipe de Boulogne-sur-Mer, on a été très très vite, mais forcément en allant très très vite, on prend des raccourcis, et on n'a pas toujours le temps de revenir dessus, parce qu'en fait on a besoin d'aller vite, puis on se rend compte que ça va marcher, donc il faut aller encore plus vite, et puis on avance, on avance, on avance, on court, on court, on court, et puis petit à petit on se dit mince, on va finir par trébucher, et donc on a cette dette technique qu'il faut gérer, et donc là on est en train de reprendre pied, j'ai envie de dire, c'est-à-dire... De se mettre en position d'être simplement remboursé petit à petit, de pas tout casser du jour au lendemain, parce que on continue à avoir besoin d'évoluer vite, et parce qu'il y a de la concurrence et parce qu'il y a des parts de marché à prendre, et donc voilà, mais donc ces deux éléments là de staff qui bouge et de dette technique à gérer font que on a besoin d'avoir une lisibilité très court terme sur notre capacité d'exécution, et donc là où avant on est toujours sur un cycle de livraison qui est de 4 à 6 semaines, avec un contenu sur 4 à 6 semaines. On a descendu les cadences, la définition d'un planning et une micro-rétrospective à la semaine. De sorte que sur une semaine, on se dit, voilà, puis après on pose des échelles. Le développement, il ressemble à quel développement qu'on a déjà fait, où on sait que ça prend un jour ou deux jours, et puis on vient chiffrer sur la base de cette échelle. Qui est encore en cours d'ajustement, on va dire, mais voilà, on est descendu à la semaine, et en même temps, on continue d'avoir le mode un petit peu Kanban qu'on a sur d'autres sujets, typiquement la maintenance ou certains sujets de migration technique en mode un petit peu sous-marin, parce qu'en fait, c'est du fil de l'eau, il n'y a pas de raison de planifier plus ça qu'autre chose, et donc on a un flux de maintenance qui se repriorise en continu, Je sais pas si t'entends mes enfants en train de...
c'est les aléas de 2021. On a tous l'habitude maintenant de faire des zooms avec des enfants à côté.
Et le micro est censé être unidirectionnel, mais bon, voilà. Voilà, vive c'est le ça. Covid. tout ça pour dire que on a des flux de travail, notamment sur la partie maintenance, pour être capable, parce qu'on a du coup un cycle de maintenance aussi, puisque comme on a nos releases majeures avec un vrai contenu et de la vraie nouveauté toutes les 4 à 6 semaines, en pratique c'est quand même plutôt 6 que 4, nous on veut pas attendre évidemment, alors évidemment la correction de bugs, on n'en parle même pas, mais il y a parfois des petits points de douleur dans l'application, des choses qu'on n'avait pas vues, et on a des feedbacks clients, et on aime bien aussi la co-construction et processer les feedbacks clients. Et donc, lorsque c'est facile à faire, en fait, on garantit un filet de bande passante en flux de travail constant. Et donc, ça, c'est notre modèle actuel et c'est des choses qu'on a... Le flux, il existait avant, mais le cadencement à la semaine, il est arrivé récemment.
Ok, bah c'est intéressant d'avoir pu tester ça. Et du coup, vous avez votre grand cycle de release autour des 6 semaines et vous avez quand même un peu de bande passante pour faire des hotfix de temps en temps sur des cycles.
On n'a pas le choix, en fait. Ouais. Hein. J'aimerais pouvoir dire qu'on fait des releases où il n'y a jamais de bug. On vit dans le monde réel, donc oui, on produit une certaine quantité de bugs, malheureusement. La majorité ne passe pas l'étape de la prod, on les corrige avant, et puis il y en a une partie qui passe les filtres, et donc on corrige après. Et puis il y a une partie, c'est plus de l'amélioration, qu'est-ce qu'on est capable de je sais pas, une liste déroulante qui n'est pas pratique à utiliser. Enfin, il y a parfois des petites choses comme ça, c'est des petits quick wins, des fois, qu'on est capable d'injecter au fur et à mesure.
Tu disais que l'équipe grossissait de manière assez rapide. Comment est-ce qu'elle est structurée, l'équipe tech, aujourd'hui, et comment est-ce que tu la vois se structurer dans les semaines, mois à venir?
Bah ça, c'est aussi quelque chose qui a changé très récemment, pas plus tard que cette semaine. Oui, on recrute beaucoup. On a pour ambition de passer de 30 à 80, 90 d'ici à la fin de l'année. Et aujourd'hui, l'équipe produit/tech représente la moitié des effectifs de Data Legal Drive. Ça veut dire qu'on va recruter cette année entre 20 et 30 développeurs. Donc évidemment, c'est très ambitieux, c'est énorme, et forcément l'organisation, elle va bouger. Et en fait, elle a déjà commencé à bouger puisque ces recrutements, on les a lancés avant. Et l'équipe a atteint une taille où il a fallu, on a constaté déjà, toujours dans ce mode amélioration continue, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Une évidence, hein, quand je le dis comme ça, on se rend bien compte que tenir un stand-up à 10, ça commence à devenir trop long et qu'on n'arrive pas à garder l'attention des gens. Et puis voilà, c'est moins productif, c'est moins bien. Donc on a coupé, si je puis dire, l'équipe en deux. On a formé deux squads de dev et ça a démarré lundi là. Donc maintenant, au lieu d'avoir une itération pour une grosse squad, eh ben, on a deux meetings de planning, deux meetings de rétro. Comme on a deux QA aujourd'hui chez DLD, bah chaque QA est parti dans une des squads pour tester plus spécifiquement les features développées par chaque squad. Aujourd'hui, ce modèle de squad, il n'est pas encore vraiment sous-tendu par l'architecture applicative. Il n'y a pas une zone particulière d'intervention d'une squad parce que l'architecture du produit doit aussi évoluer sur la stratégie produit 2021. Peut-être on y reviendra, mais tout ça, ça va bouger. Et dans l'idée... C'est ce qu'on anticipe. On ne veut pas que les équipes se marchent sur les pieds. Donc, on a besoin de sécuriser un petit peu les périmètres. Mais à nouveau, on le fera de manière très pragmatique. Au fur et à mesure, on a une stratégie, on a une cible. On essaie de faire des petits pas à chaque fois dans la bonne direction.
Pour l'instant, il y a deux squads. C'est tout nouveau. Il y a deux squads. Elles se partagent encore le même backlog, le temps de séparer de manière applicative.
On a un Jira aujourd'hui avec un backlog. Mais en fait... On a été instrumenté Jira et on a labellisé de sorte que, justement, on soit certain que... il y a des thématiques, hein, au planning, on explique le contenu, mais comme on veut pas que les gens aient des tableaux un peu pollués, on vient flaguer les tickets pour que chacun ait sa vue. Donc, en fait, on a créé plusieurs tableaux qui font que notre PM, il voit tout. Les QA, ils voient chacun les tickets à tester de leur squad. Ils ont des potentiels bugs à qualifier... et puis les devs, ils ont les tickets qui ont été directement dispatchés sur leur squad. Donc par exemple, c'est important parce que autant sur les features, c'est assez facile. Soit on fait une épique, on fait quelque chose et on dit cette grosse feature qui est à, on va dire, c'est une trentaine ou une quarantaine de jours de développement. Évidemment, c'est pas un ticket, hein, quand je dis ça, c'est l'épique, c'est la grosse feature dans son ensemble. Et donc on en fait deux là en ce moment puisqu'on a deux squads. Chaque équipe va savoir. Moi, je bosse là-dessus, je bosse pas sur l'autre. En revanche, pour que tout le monde tourne un petit peu sur la partie maintenance, sur la partie remboursement de dette technique ou migration technique de telle ou telle zone dans le produit, on fait tourner le flux, il switch d'une équipe à l'autre. Donc il faut qu'on soit capable de s'assurer que les développeurs vont pas aller dépiler un ticket. Alors tout ça, ça stresse en stand-up, hein, c'est toujours pareil, mais si le truc est clean d'entrée de jeu, bah, on a moins de problèmes à régler derrière, et donc voilà, on a instrumenté le truc comme ça. Et puis après, l'idée, c'est comme on sera 30 développeurs d'ici la fin de l'année, ça nous emmènera sur un volume de 5, 6, peut-être 7 squads, j'en sais rien. Ça dépendra un petit peu des périmètres et de l'architecture applicative qui se dessinera. Et bon, c'est le côté aussi intéressant de l'aventure, c'est que l'avenir n'est pas écrit, on verra les gens qui nous rejoignent, leurs appétences, et puis on construira aussi avec les personnes. Et donc, ce qu'il y aura in fine à la fin de l'année, je sais qu'il y aura à peu près 30 personnes, mais voilà, c'est aussi un à peu près. Et combien il y aura squad, je ne sais pas exactement, mais on est sur cette idée de modèle Spotify. C'est quand même comme ça qu'on veut se structurer. Une squad d'environ 5-6 devs avec un PO, un QA, comme ça, c'est une squad qui est autonome, avec un pilotage derrière par de la roadmap plutôt gérée en product management. Et puis le côté centre de compétences QA pour... une gestion harmonieuse de l'automatisation des tests, des scripts, du portefeuille de tests, etc., de la couverture. Est-ce que ça va marcher chez nous ? Je l'espère. Si ça ne marche pas, on verra. Et puis, voilà.
Vous testerez autre chose et vous itérerez. Quoi.
Exactement.
Parlons un peu technique encore. On avait touché rapidement au début d'interview que vous étiez sur une stack merde. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Quels sont le framework Node que vous utilisez ? Si vous utilisez un ORM, si tu peux nous en dire un peu plus techniquement ?
Ouais. Alors, on va faire de haut en bas. Premier élément, c'est React. Voilà, on est sur une architecture de type SPA. Au sein de React, on utilise Redux pour le state management. Et ensuite, c'est un catalogue d'API REST. Alors là, comme je fais beaucoup de recrutement, beaucoup de gens me parlent de GraphQL. On ne fait pas de GraphQL, on est sur du REST.
REST standard, c'est...
Standard, voilà. Mais qui fonctionne bien chez nous par ailleurs. On pourrait probablement mettre en œuvre du GraphQL, mais aujourd'hui, on n'en a pas. Donc du REST. Ce reste, il est servi par un backend Node.js. Donc, dans Node.js, on utilise Express. Mais en fait, on l'utilise finalement assez peu directement, Express, puisque initialement, il n'y avait que Express. On définissait les routes directement avec Express. Assez rapidement, moi, j'ai tenu, parce que ça fait partie de notre stratégie, le côté intégration de la plateforme dans un écosystème IT, le fait d'exposer un catalogue d'API, ce genre de choses. On a une architecture basée sur des API, donc... pourquoi ne pas utiliser ces API et en faire une force ? Et aujourd'hui, la plupart des produits SaaS proposent des accès développeurs, des catalogues d'API, etc. Nous, on le fait de manière ponctuelle avec des clients lorsqu'ils ont des besoins particuliers, mais on a envie d'étendre ce modèle. Rendre notre catalogue d'API mieux formalisé, c'est devenu assez important. Et donc, en fait, on a rajouté une couche sur Express qui s'appelle... C'est un middleware qui s'appelle Express Open API. Open API, c'est la succession de Swagger, en fait. Hein, c'est la version d'après. Et donc, comme ça, ça nous permet de documenter nos schémas, les types d'objets, les codes d'erreur, les points, les endpoints, dans quelque chose qui nous permet ensuite de produire un site de documentation, potentiellement de générer du code chez des clients, de tester les méthodes avec des appels curl très facilement. Voilà. Donc, on a posé ce truc-là par-dessus. Et en fait, du coup, Express, quand on travaille avec ça, on n'y touche quasiment plus puisque le framework prend la main. On pose les contrôleurs derrière, on définit les mesures de sécurité, qu'est-ce qu'on met comme contrôle, etc. Et puis, on ne touche plus vraiment à Express juste pour 2-3 trucs très spécifiques ou les API legacy qui n'ont pas migré là-dessus puisque, évidemment, il y a quand même le catalogue existant qu'on n'a pas 100% répercuté dans Express Open API à ce jour. Donc, Express... il est là, il existe, il y a quelques middleware posés dessus, il y a du passeport, ce genre de choses sur la partie sécu.
D'accord, c'est du JS ou du TypeScript ?
Alors, sur la partie back-end, on est en fin de migration sous TypeScript. Et donc, une fois qu'on aura fini ça, on se posera la question de migrer notre front-end en TypeScript, puisque aujourd'hui, notre front-end est effectivement en JS. Ça, c'est apparu comme une évidence assez rapide. Moi, j'avais peu d'expérience JS en arrivant chez DataLegal Drive. J'en avais fait. J'ai fait du serverless AWS dans une vie précédente. J'aime bien, et c'est vrai que quand on est seul, JS marche bien parce qu'en fait, on sait ce qu'on fait. Dès qu'on rentre dans une équipe à plusieurs, et là, j'ai mon background Java qui m'est revenu. Lorsqu'on a un typage et un petit compilo quand même qui te dit attention, là, il y a un truc, ça va pas bien marcher. on évite tout un tas de problèmes un peu bizarres. Donc, on s'est dit à un moment donné, il faut qu'on passe en TypeScript, c'est un investissement pour l'avenir, surtout avec des équipes qui vont croître vite. Notre capacité de recruter aussi des gens un peu plus juniors, elle passe par une structuration plus importante. Donc voilà, TypeScript, c'est un enjeu.
Ouais, y a une taxe à l'entrée sur TypeScript, je trouve. Enfin, on voit le bénéfice de TypeScript que plus tard dans la maturité du produit. Quand on est au tout début, c'est plus pénible qu'autre chose de définir des types, même des types personnalisés, alors qu'on ne sait même pas forcément à quoi va ressembler son objet à différents stades de l'application.
Oui, c'est vrai.
Mais avec le temps, ça devient plus clair. Et puis, ça permet de savoir, voilà, à l'entrée, ça doit être ça. À la sortie, ça doit être ça. Et on sait de quoi on parle. On peut en parler de vive voix. On sait mettre un mot sur l'objet.
Absolument, mais il y a un truc très important dans ce que tu dis, c'est en fait, ça oblige à réfléchir, des fois on ne sait pas trop pourquoi, mais en fait quand on est dans une implémentation et on doit réfléchir à un objet, on se dit mais attends, il a quoi comme propriété cet objet, comment il est structuré, quels sont ses attributs, est-ce qu'il dépend d'un autre objet en fait, ou c'est, tout ça c'est dans un seul objet, c'est des questions de design en fait qu'il faut se poser à la base. TypeScript oblige un peu plus à réfléchir, mais tout comme le fait de faire des tests unitaires, ça t'oblige à te positionner comme client de ton API interne. Ou après, il faut aussi se poser la question de comment tu modélises tes données et comment tu vas les persister. Et la conception technique, c'est essentiel dans le travail du développeur, d'avoir bien réfléchi avant de se lancer bille en tête dans du code. Et c'est quelque chose sur lequel nous, on met de plus en plus l'accent. On a été parfois un peu trop rapide sur certains éléments par le passé, et ça nous est revenu dans la figure par la suite. Et donc maintenant, on fait attention à ça, et c'est beaucoup plus gratifiant. Et je reprends une expression, et il m'en voudra pas, de notre product manager, faire bien du premier coup. Ça, c'est hyper important maintenant, de s'être posé bien toutes les bonnes questions avant. Toujours plus facile de réfléchir avant et de faire bien, que de se lancer bille en tête dans du code, de rien dire, ah ouais, mais en fait, il y a un problème là, et là, et donc, faut refaire. Sur la partie framework, du coup, tu parlais de... Donc, voilà, on est là-dessus, et ORM, non, pas ORM, mais on est donc sur une... Principalement, nos données sont dans MongoDB aujourd'hui, et donc, on utilise Mongoose pour attaquer MongoDB à travers Node.js. Mais moi, je tiens à ce que tous les développeurs soient MongoShell aware. De ne pas se retrouver perdu devant une vraie requête Mongo avec un aggregate. Parce qu'en fait, comme on a un petit peu de dette technique dans le modèle de données aussi, bah, régulièrement, on fait des mises à jour de schémas de documents pour changer un peu la manière dont les propriétés sont structurées. Et ça, lorsque c'est très très fonctionnel, on le fait à travers des scripts TS, mais parfois, ce sont de simples requêtes Mongo. Et il faut savoir comment la base travaille. De toute façon, pour utiliser correctement quelque chose comme Mongoose, il faut savoir ce que c'est qu'un index, il faut savoir comment travaille la base de données, je pense que ça, c'est vraiment important.
Tu parlais de tests tout à l'heure, vous utilisez quelle librairie pour faire vos tests?
Jest, on utilise Jest pour faire tous les tests à l'intérieur dans le code, les TU, que ce soit côté back ou côté front. On utilise aussi pour des tests end-to-end, on met en œuvre Cypress, pas un framework sur lequel on a encore beaucoup investi. Dans les enjeux de 2021, c'est l'amélioration de l'efficacité, notamment en face de nos règles. L'investissement sur Cypress, il va être important cette année dans le développement de scénarios. Sachant que, avec le petit bémol peut-être, il faut faire toujours un petit peu attention à ces tests. Si on travaille sur des zones qui évoluent très vite et beaucoup, il faut quand même se poser la question de ne pas aller trop loin, parce que sinon on passe son temps à refaire et à réécrire des tests. Voilà, attention à bien poser le curseur sur cette typologie de test. Et on utilise aussi ça pour, pas Cypress, Jest, pardon, sur un truc un peu plus high level pour aller tester les API. Plus en mode programmatique, ouais. Pour pas avoir à passer à travers le front-end pour tester les API. Mais donc, comme de toute façon on expose un catalogue d'API, c'est le catalogue d'API, il doit fonctionner quoi qu'il arrive. Et donc, on l'utilise aussi à ce niveau-là. On l'utilise même, d'ailleurs, pour venir câbler un certain nombre de tests en supervision, en fait, pour envoyer des indicateurs vers la supervision, vers notre Prometheus.
D'accord. Donc, vous avez quand même un système de monitoring via Prometheus, sur Grafana.
Bien sûr. Nous, quand on regarde ce qu'on manipule comme données, on n'est pas sur quelque chose qui est en général mission critical pour nos clients. Si nous, on arrête de fonctionner, a priori, le business des clients continue de fonctionner. Il y en a qui s'inquiètent quand même parce qu'ils disent « Oui, mais du coup, si la CNIL débarque pour m'auditer au moment où vous êtes down. » Bah oui, c'est vrai, effectivement. Alors, en pratique, moi, j'arrive d'un monde où la contrainte 24/7 était hyper forte. Mmh. Il y avait des astreintes. Et puis, on était très, très orienté supervision et haute disponibilité. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a, sur lequel on a beaucoup travaillé dans les 2 ans passés. Donc, on est sur un déploiement haute dispo, en fait. On a un site actif, un site passif, on a des réplications de bases de données temps réel, et on supervise également en temps réel la disponibilité du système. On est capable de basculer en 5 minutes d'un nœud sur l'autre. Et donc, en fait, on donne une garantie de 24/7 à nos clients, avec des taux de dispo assez importants pour ce type de produit. On mesure les SLA, etc. Donc, on fait hyper gaffe à ça.
Tu parlais d'infra et de déploiement. Vous êtes sur quel fournisseur d'infra?
On est chez Scaleway aujourd'hui. Alors, il y a quelque chose qu'on aime bien mettre en avant aussi chez DataLegalDrive, c'est le côté un peu franco-français, qui parle à pas mal de nos clients. Alors évidemment, demain, quand on sera à l'Europe, notre discours changera forcément un petit peu. Mais vu les technos qu'on utilise, on sera capable potentiellement d'aller héberger aussi dans d'autres pays européens. Bon, ça, c'est important sur le plan juridique parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Cloud Act, par exemple, hein, parce qu'on est chez des Amazon ou des Azure, qui permet...
Concrètement, si les autorités américaines ont envie d'accéder à vos données et que vous êtes chez AWS...
Voilà, donc techniquement, elles seraient en capacité de le faire. Nous, on a choisi un partenaire français. On serait quand même en capacité de déployer sur un data center luxembourgeois. Hein. Ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est... On est chez Scaleway, on fait de l'IaaS, donc en fait... Mm-hmm. On installe les OS et on installe toutes les couches de virtualisation. On est full Docker, en fait. Hein. Dans ce qu'on fait, on utilise un truc qui s'appelle Rancher pour faire toute la partie orchestration, ce qui nous permet d'avoir accès à des interfaces de l'orchestrateur, du pilotage high level, un petit peu comme ce que ferait un cube aujourd'hui, même si on n'est pas tout à fait encore sous cube. Ça fait partie des petits projets sur 2021-22. Donc voilà. Bon, après, c'est assez simple. Hein. C'est du Ubuntu LTS, Docker Rancher, et puis ensuite on vient poser nos composants virtualisés, nos stacks. Potentiellement sur cette année, on poquera tout ce qui va être Kubernetes managé chez Scaleway. Il y a une offre qui s'appelle Scaleway Elements, mode AWS en fait, avec des services managés. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça peut nous apporter. Notre ambition à nous, c'est pas d'investir lourdement sur la partie administration d'une infrastructure. C'est pas là qu'on a notre valeur. On en a besoin, bien entendu. C'est une fonction clé, notamment pour les aspects de sécurité, de gestion des backups, tout un tas de trucs qui sont quand même hyper importants. Mais installer des systèmes d'exploitation, voilà, c'est pas ou les maintenir à jour les patchs de sécurité. C'est pas là où il faut que moi je recrute du monde.
Pourquoi tu as orienté ton choix vers un Scaleway, une infrastructure que tu manages toi-même versus un plateforme as a service que même français a un Clever Cloud ou un Scalingo ou...
C'est un choix historique à la base. Je peux pas dire pourquoi ça a été orienté comme ça. L'industrie, le projet, je parle d'industrialisation, c'était le nom de code du projet à l'époque, de migrer tout sous Docker Rancher, de brancher ça à la CI/CD sous GitLab pour avoir les déploiements automatiques, etc. C'est ce qui a été posé à l'époque. Pourquoi on n'a pas pris un autre, je ne saurais dire. Aujourd'hui, c'est l'État. Et donc, comme c'est aujourd'hui mon provider, demain, moi, je voudrais savoir justement ce que peut m'apporter un PAS. Et donc, c'est le sens de ce que je viens de dire. On va essayer de prototyper ce truc. Et puis, dans le prototype, on va benchmarker aussi forcément... les différents providers qui existent aujourd'hui.
On va revenir un petit peu sur l'aspect produit parce qu'on en parlait, on a abordé le sujet en début d'interview et tu me disais qu'il y avait des beaux challenges produits à venir. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est-à-dire un développeur qui rejoint des LD en 2021, quels vont être les challenges produits auxquels il va être confronté?
Alors les challenges produits, on a un produit aujourd'hui qui est plutôt par héritage en fait un monolithe dédié au RGPD. Et donc en fait demain, et quand je dis demain, c'est d'ici la fin de l'année, mais même avant, il faudra avoir réarchitecturé tout ça pour qu'on puisse remplir autre chose que du RGPD, les besoins du RGPD. On a d'autres sujets de conformité, typiquement autour de l'anticorruption, par exemple, qui sont assez structurants pour nous et stratégiques. Tout en ayant isolé la plateforme technique. Il y a un socle sur lequel on doit s'appuyer. Il y a une verticale RGPD, il y a une verticale anticorruption, potentiellement d'autres verticales ensuite à l'avenir. Et donc, définir ce qui va là, ce qui va en dessous, et l'abstraire, le rendre plus puissant pour servir l'ensemble des métiers, ça va être un des gros enjeux techniques. Donc, j'ai déjà un architecte qui planche sur quelle boîte on va essayer de mettre, qu'est-ce que techniquement ça veut dire. Et derrière, on va avoir la réarchitecture de la plateforme. Est-ce que ça veut dire qu'on va tomber dans du microservice ou quelque chose de typé un peu SOA? Et ben voilà, l'avenir nous le dira. Je pense qu'un des gros enjeux, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va écrire l'histoire ensemble. Et en fait, être capable d'avoir une vision de high level de comment un produit doit être construit et de dire voilà comment je tire la substantifique moelle de ce RGPD, j'en fais quelque chose d'un petit peu plus générique et je rends cette partie-là utilisable pour Sapin 2 et pour RGPD. Ça, c'est un vrai enjeu. Et voilà, il y a un autre enjeu qui est sans doute un petit peu moins fun, encore qu'il y a des techniciens que ça attire, c'est comment on va être capable de construire toutes ces nouveautés en réduisant notre dette. Et ça, c'est un vrai enjeu. Lorsque je suis en entretien de recrutement, je sensibilise beaucoup les gens que j'ai en face de moi à ça, parce qu'en fait, j'ai plein de belles choses à vendre dans l'histoire de Data Legal Drive, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à faire sur 2021, mais 22, 23 dans l'avenir. Et en même temps, il y a l'historique qu'il faut pas perdre de vue. Et voilà, je voudrais pas que quelqu'un arrive chez nous en disant, ah, ben dis donc, c'est pas exactement ça que tu m'avais dit. Donc je suis assez transparent là-dessus. L'idée c'est pas de noircir le tableau, mais c'est quand même de comprendre aussi ces enjeux de résorption, je sais pas si ça se dit, mais en tout cas de la dette technique. Et puis de trouver le bon curseur, c'est-à-dire qu'il y a des zones on va refaire, ça sert à rien de migrer ou de refactorer ou voilà. Et puis il y en a où en fait il y a des gens qui ont des choses à apporter en disant mais vous connaissez pas tel truc, moi ce problème-là j'ai déjà vu 10 fois, et d'être capable d'être force de proposition pour aller dans l'amélioration.
De ce que je vois, il y a des challenges, donc les challenges fonctionnels que tu viens de citer en découlent des challenges techniques qui sont intéressants et à la fois des opportunités de pouvoir grandir en termes de carrière, en termes de développeur, que ce soit en prise de position, entre guillemets, de proposition fonctionnelle, proposition technique, leadership d'équipe, de squad, etc. Les opportunités ont l'air multiples.
Tout à fait. Alors, elles sont multiples et après, mais en même temps, je peux rien promettre. C'est un peu le jeu. C'est-à-dire que on est dans une telle accélération, dans un tel développement que, a priori, je suis à peu près à l'aise pour dire, toi, tu veux peut-être te spécialiser dans le front-end ou dans la UX, oui, c'est sans doute possible. En fait, les premiers recrutements sont plus simples parce que du coup, il y a un éventail plus large. Et puis, petit à petit, on deviendra plus exigeant et il y aura moins de marge de manœuvre puisqu'en fait, les équipes se seront déjà correctement structurées, architecturées. C'est pas les enfants, c'est le chien.
Qu'est-ce que... je garderai ça au montage, ouais. Hein, je n'enlève pas.
Oui, des possibilités d'évolution, c'est évident. Il y a deux phénomènes en fait qui rentrent un petit peu en concurrence et moi je vais m'accommoder des deux. J'ai besoin d'injecter de l'expérience dans l'équipe, d'accord. Donc ça veut dire que très concrètement, là en ce moment, je cherche un lead développeur parce que ce lead, il va être capable de m'autoriser à être à m'adresser à des développeurs peut-être un peu plus jeunes. Et en même temps, je suis tout pour, moi, la mobilité interne. Si quelqu'un évolue, et je l'ai déjà fait par le passé, y compris chez Data Legal Drive, de quelqu'un qui nous rejoint, qui démontre des capacités et qui devient ensuite, qui manage une équipe. Mais si cette personne, elle a dit, non, mais moi, ça m'intéresse pas, mais en revanche, je veux être super technique et je vais évoluer vers de l'architecture, et ben ouais, c'était aussi une possibilité à l'époque. Et ça continue d'être une possibilité. Donc, oui, c'est une page blanche, hein, en fait. Hein. On sait à peu près qu'est-ce qu'on a envie d'écrire à la fin. Ils vécurent heureux, ayant beaucoup d'enfants. Et puis, bah, tout le scénar, maintenant, faut l'écrire.
Faut l'écrire, tout à fait. Qu'est-ce que tu attends ? Donc là, tu nous as dit que tu cherchais un lead développeur, mais tu nous as aussi dit que vous alliez faire une vingtaine de recrutements. Ouais. Qu'est-ce que tu attends chez un développeur qui rejoindrait DLD ?
Bah, moi, ce que j'attends, le critère numéro un, c'est pas la compétence technique sur nos technos, c'est la prise de recul, être capable de savoir quand est-ce qu'il faut écrire, quand est-ce qu'il faut faire quelque chose de générique, et quand est-ce que c'est trop tôt, et on est en train de penser à un avenir qui n'arrivera jamais, et on se rend les choses trop compliquées d'entrée de jeu. Ça, c'est hyper important, et c'est ce que je vais chercher à détecter chez n'importe quel candidat. Évidemment, je vais être beaucoup plus dur, si je puis dire, ou exigeant avec quelqu'un qui a 4, 5, 6, 10 ans d'expérience. Donc je pose des questions du type qu'est-ce que c'est pour toi une bonne API, que ce soit en REST ou une interface Java ou ce que tu veux, mais qu'est-ce qui fait que pour toi c'est clair, c'est lisible, voilà. Et donc il y a des mots-clés que j'aime bien entendre, et puis il y en a que des fois je découvre, je dis, ah oui, tiens, c'est intéressant, c'est un autre point de vue sur la manière d'envisager les choses, et donc ça c'est rigolo. Donc ça c'est vraiment le premier truc, c'est le recul. Derrière, c'est est-ce que je vais être capable de dire, oula, techniquement, il faut que je réfléchisse un peu plus, il faut que je lève la main, il faut que j'hésite pas, il faut vraiment pas que j'hésite à demander de l'aide, soit au PM, soit à l'expert technique du moment parce que je viens d'arriver et que je comprends pas, ou bien parce qu'en fait, fonctionnellement, c'est bizarre. Qu'on soit senior ou junior, on peut avoir un avis là-dessus et on peut, et la capacité de quelqu'un à demander de l'aide, pour moi, c'est aussi hyper important. C'est un peu le pendant sur quelqu'un qui serait un peu plus junior, de dire, je sais pas, en fait, j'ai l'impression que je fais un truc, mais je suis pas sûr que ce soit bien. Est-ce que vous pouvez m'aider? De sorte que on progresse ensuite tous ensemble. Voilà, ça c'est numéro un. Ce qui découle de tout ça derrière, bah, c'est les qualités humaines qui font que ça peut être un succès. C'est de la bienveillance lorsqu'on pense qu'on est sachant, parce qu'on a des choses à apporter aux autres. C'est de l'humilité, parce que des fois on est sachant, mais en fait faut être capable de se confronter à d'autres opinions et de partager, et d'accepter d'avoir tort parfois, de confronter et de se dire 1 plus 1 égale 3, on confronte nos deux opinions, puis en fait on aboutit à un compromis qui a encore plus de valeur que notre petite solution chacun dans notre coin. Donc c'est les qualités humaines qui vont derrière tout ça, voilà. Après évidemment l'expérience dans le développement a évidemment énormément de valeur, mais à nouveau j'ai fait l'expérience chez DLD de personnes qui connaissaient pas trop le JavaScript mais qui arrivaient de langages un peu plus structurés type Java, qui se sont très rapidement formés au sujet. Alors c'est surtout vrai dans le backend, React ça reste un peu quand même spécial et faut rentrer dedans, il y a une courbe d'apprentissage qui est un petit peu différente, mais l'expérience en JS en tant que telle, évidemment c'est un plus, hein. Je veux dire, quelqu'un à un niveau d'expérience équivalent, avec exactement les mêmes compétences, tout aussi sympa, qui a fait du JS, bah, il va être opérationnel plus vite, donc évidemment ça joue. Mais aujourd'hui, je ne suis pas trop dans un processus de sélection comme ça. Donc quelqu'un qui aurait fait par exemple du Python, du React, et qui aurait bossé sur Mongo, ben oui, pourquoi pas. Faut voir. Voilà, et donc après, bah ouais, les qualités humaines, hein, on est vraiment attaché à cet esprit d'équipe chez DLD, dans nos trois valeurs, innovation, application, solidarité. Les trois sont évidemment très importantes, mais je pense qu'au sein de l'équipe de dev, chez les développeurs, mais aussi PO, QA, ceux qui forment la squad, la solidarité, c'est vraiment le truc le plus important, l'entraide. Voilà. Je dirais jamais assez.
Vous faites des code reviews ?
Ouais, on fait des code reviews. C'est systématique, hein, aujourd'hui. On sortit donc on est sur un modèle à la GitFlow, hein, avec FeatureBranch. Mais FeatureBranch, merge request, on est sur GitLab, hein, je disais tout à l'heure. Merge request avec code review. Aujourd'hui, plutôt une code review qui est faite avec un senior, parce que l'idée c'est de diffuser la connaissance. Mais la cible c'est pas ça. La cible c'est plutôt peer reviews. On verra quand on sera suffisamment mature pour y arriver, mais c'est notre objectif.
Ok, là j'imagine que tout cet aspect bienveillance et humilité prend tout son sens dans les code reviews, ouais. Parce que c'est, ouais, comme tu disais, ouais. C'est le moment où on peut transmettre de la connaissance technique, de la connaissance métier, c'est au moment des code reviews. Donc,
Exactement, c'est vrai que c'est hyper important d'être capable de le recevoir aussi, de comprendre la critique constructive et dire, bah écoute, là non, en fait, tu vois, tu te rends compte, t'es rentré dans quelque chose de trop compliqué. Je trouve que c'est pas lisible, j'en sais rien, ou il y a un problème de sécu, ou je sais pas. Donc il va falloir repasser dessus. Et puis être capable d'expliquer ça, effectivement, avec les bons mots, et puis de pas vexer, de pas rentrer dans les batailles de « Ah, t'as un denté sur 4 espaces, au lieu de mettre une tabulation, ah non, c'est pas bien. » Bon, le code style, c'est un autre sujet.
C'est ça.
Enfin, en tout cas, c'est un sujet, mais c'est pas le plus important.
C'est un sujet pour moi qui devrait être réglé dès le début avec un prêtier et les règles sont déterminées, fin de l'histoire.
Oui. Je ne sais plus ce qu'on a de configuré là, c'est un tout petit peu trop détaillé. Je sais, ouais, qu'on a les linters, on a tout ça, mais est-ce qu'on a le prêtier post-commit ou pré-commit ou je ne sais plus. Il y a deux, trois trucs, hein, on n'a pas tout fini. Hein, donc, ouais. Il y a des sujets aussi comme ça. Par exemple, j'aimerais bien... alors c'est plus peut-être une lubie, je ne sais pas, mais... qu'on mette un sonar cube, mais bon, faut faire gaffe parce que du coup, tu te retrouves avec une dette parce que t'as activé trop de règles. Donc, quelle règle on active? Mais j'aimerais bien avoir une visu là-dessus parce que moi, qui adore développer, je descends de moins en moins souvent dans le code par la force des choses et en même temps, ça me permet quand même des fois de rentrer sur certains sujets.
Ouais, je te conseille de regarder K6, donc K6, c'est un équivalent de sonar cube pour faire des tests de perf. Donc ça peut être intéressant. Ils ont une offre cloud et ils ont une offre on-premise que tu pourras explorer.
J'ai noté dans ma to-do, j'ai trop de sujets à gérer pour ne pas avoir une to-do correctement structurée, donc dans la truc veille, hop, j'ai mis KSX.
C'est ça. Fabrice, merci beaucoup pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier mot que tu voudrais faire passer à l'audience?
Bah, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire. En fait, cette année, et on ne l'a pas dit dans l'interview, mais c'est comme c'est de l'actualité, je me permets de le rappeler, on vient de lever 2 millions d'euros. On a des enjeux de recrutement extrêmement forts. On a un projet qui a une traction énorme et on est là pour écrire l'histoire et c'est vraiment le moment de venir. Donc, venez nous rejoindre. On fait pas d'IA, on fait pas de blockchain. C'est vrai qu'on n'a pas un certain nombre de buzzwords de la tech aujourd'hui qui parfois font mettre des étoiles dans les yeux de tout un tas de développeurs. Mais en revanche, on aime le code bien écrit, le code bien fait. On s'améliore. Il y a des choses à apporter chez nous et il y a de gros enjeux. Et donc, c'est vraiment un moment cool pour venir. Et on est vraiment à la recherche de talents, le tout dans la bonne ambiance. Je pense que ça, c'est important de le dire. C'est évident, mais voilà, je le rappelle.
Parfait, merci beaucoup Fabrice.
Merci Ryan.